Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Galade. Au sommaire de notre édition, deux labels pour le CSV Rugby. Frédéric Miguet, président du CSV, félicitait ses équipes bénévoles et salariés des récompenses. Puis suivi des propos du responsable sportif du club caladois de rugby, Nicolas Leroy. Et pour conclure, le harcèlement scolaire, une préoccupation gouvernementale comme nous l'explique Jean-François Miro, inspecteur de l'éducation nationale, responsable de la circonscription de Villefranche. Calade, le journal. C'est une des nombreuses données statistiques que contient le rapport annuel sur l'état de la pandémie de VIH-SIDA. Chaque semaine dans le monde, 6200 adolescentes et jeunes femmes sont infectées par le VIH, sachant qu'à âge égal, une jeune femme présente un risque 60% plus élevé qu'un jeune homme de se voir transmettre le virus du SIDA. Rendu public le 16 juillet par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH-SIDA, ONU-SIDA, ce rapport place les communautés au centre de la riposte. Il souligne le ralentissement global des progrès, les tendances divergentes selon les grandes régions du monde et le fossé qui se creuse entre les financements mobilisés et les besoins de la lutte contre la pandémie. Article de Paul Beckmoun pour le journal Le Monde. Les optimistes ne manqueront pas de se réjouir en constatant que le nombre de personnes vivant avec le VIH ayant accès aux traitements antirétroviraux a continué à progresser en 2018. De même, le nombre de décès continue de diminuer. La proportion de personnes connaissant leur séropositivité au VIH progresse également, mais reste loin de l'objectif de 90% à atteindre en 2020. Deux labels pour le CSV Rugby. Frédéric Miguet, président du CSV Rugby, félicitait ses équipes bénévoles et salariés des récompenses par l'attribution des deux labels pour le club du terroir, comme il se plaît à dire. Un premier au centre d'entraînement Groupama, désormais labellisé par la FFR, et un second à l'école de rugby par le label 3 étoiles de la FFR. Le Bocuse des écoles de rugby nous confie-t-il à notre micro. Alors Frédéric Miguet, labellisation d'un 3 étoiles, c'est bien cela ?
Oui, pour l'école de rugby du CSV, donc c'est un immense honneur pour notre club. Bah, c'est une reconnaissance déjà de l'implication depuis des décennies de tous les éducateurs du CSV. On a fait le choix depuis très longtemps de former, plus tous les autres critères qui nous permettent d'avoir les 3 étoiles, donc c'est vraiment une très belle réussite collective.
L'apport concret, finalement, de cette labellisation ?
L'apport concret, c'est en termes d'image de marque du club, elle est exceptionnelle, notamment pour les sponsors. Après, on n'a pas d'apport concret de la fédération, mais c'est déjà une reconnaissance exceptionnelle.
Et vous parlez, pour terminer, d'un club de terroir en boutade.
Oui, c'est ce qu'on essaye de créer, parce que les valeurs du Beaujolais sont proches de celles du rugby, beaucoup de convivialité, beaucoup d'échanges, beaucoup d'amitié, et le CSV Villefranche Rugby est un club de terroir.
C'était Frédéric Miguet, président du CSV Rugby. Récemment récompensé par l'attribution du label 3 étoiles de la Fédération française de rugby. Et pour poursuivre des propos du responsable sportif du club de rugby, Nicolas Leroy, derrière ce label, c'est toute la volonté du club dans sa politique de formation des équipes de joueurs, explique-t-il. Une valeur ajoutée d'encadrants diplômés, mais également aller encore plus loin dans le plan de formation et d'objectifs bien plus précis. Nicolas Leroy.
C'est vrai que cette année, c'est une année quand même très importante pour le CSV, parce qu'on a nos seniors qui montent en Fédéral 1, donc ce qui est quand même une très grande satisfaction. Et puis après, en même temps, on a ces deux labels, hein, que ce soit sur l'école de rugby avec la 3e étoile et sur le centre d'entraînement labellisé Groupama, qui a aussi été labellisé il y a 2 mois par la Fédération française de rugby. Donc le projet, il y a 10 ans en arrière, le club était déjà en Fédéral 2, avait déjà des jeunes qui fonctionnaient plutôt pas trop mal. L'idée était d'essayer de structurer, d'apporter beaucoup plus de cohérence peut-être et de lien entre les différentes catégories, les différentes équipes du club. Donc c'est passé par le premier objectif, a été un gros objectif de formation des éducateurs, des cadres, que ce soit les éducateurs et les entraîneurs. L'idée c'était que tout le monde puisse avoir la possibilité de rentrer en formation pour apporter forcément une plus-value après aux joueurs, aux plus petits mais aussi aux plus grands.
Alors, formation qui paye aujourd'hui, hein, puisque on peut salarier, enfin il y a des salariés ici qui forcément amènent tout leur professionnalisme.
Voilà, alors là, la vraie évolution hein, depuis l'an passé, hein, il y a deux ans, on avait déjà eu un mi-temps avec Pierre-Richard Andard, qui l'année dernière s'est transformé en temps plein. L'an passé est arrivé aussi Sébastien Bouillot, donc ce qui permet aussi de professionnaliser l'encadrement des équipes du CSV. Donc ça, c'est quand même un vrai apport et un vrai plus, et on va continuer à développer cette année avec la prise en charge par le club de 3 apprentis plus un service civique. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on a une vraie petite équipe de professionnels pour pouvoir encadrer les différentes équipes du CSV.
Alors un apport également aussi des anciens, j'allais dire, et de leur transmission, des anciens joueurs, mais aussi de tous ces bénévoles passionnés hein, qui vous entourent finalement, qui font aussi partie du comité des sages pour certains.
Alors effectivement, tout bien, nous, une association comme la nôtre, elle fonctionne essentiellement avec des bénévoles. Hein. Sans bénévoles, le club ne pourrait pas exister. Et on ne sait jamais d'ailleurs comment les remercier, parce que sans eux, rien ne se passerait au niveau du club. Même si aujourd'hui, le club se professionnalise un petit peu, il n'empêche que c'est le socle du club fait partie avec nos bénévoles. Ensuite, effectivement, depuis 3 ans, là, on a mis en place un comité de sages. Alors, le terme, je ne sais pas s'il est le bon, mais en tout cas, c'est des gens qui ont œuvré beaucoup pour le rugby. Voilà, qui ont œuvré beaucoup pour le rugby, souvent beaucoup aussi pour le CSV, mais qui n'étaient plus forcément acteurs du projet du CSV, qui sont revenus acteurs via cette commission, qui est une commission de réflexion un petit peu notamment sur le projet de formation, et qui nous permet d'avancer grandement dans l'évolution du club de manière très positive.
Alors, Nicolas Leroy, pour résumer en quelque sorte, donc il y a également donc un centre de formation, on en a parlé, mais aussi une école, c'est bien ça, de rugby. Hein,
voilà, donc l'école de rugby hein, qui est la base un petit peu de tout club. Hein, sans école de rugby, pas de nécessité. Enfin, pour moi, c'est le club et
les jeunes poussent.
Voilà, c'est indispensable. Et ce qui fait le socle un petit peu de notre club, c'est aussi cette école de rugby. Donc là, la fédération a renouvelé un petit peu sa forme de labellisation et a mis des étoiles cette année. Donc nous, on a participé à cette labellisation. On était déjà labellisé. On était dans le cadre du renouvellement. Donc on a préféré attendre un petit peu pour rentrer dans cette nouvelle procédure. Et effectivement, on a eu, au vu du dossier qu'on a pu constituer, on a pu obtenir la 3e étoile, ce qui est une vraie fierté pour le club. Fierté, mais pas finalité. Très clairement, ça va pas nous empêcher de continuer d'avancer, de continuer à structurer et continuer à trouver des solutions pour que les enfants se plaisent à être au CSV et continuent à progresser dans un cadre éducatif.
Donc 200 enfants, c'est bien ça, des stages, des rendez-vous d'été, c'est bien ça.
On essaie quand même d'être assez dynamique, c'est-à-dire que depuis 7-8 ans, là, on organise déjà tous les étés, au mois de juillet, un ou deux stages hein, en fonction des années. Là, cette année, on a 2 semaines de stage où on va avoir vu 49 stagiaires. Alors, c'est pas exactement 49 parce qu'il y en a qui ont fait les 2 semaines, mais ça fait quand même 49 stages qui ont été délivrés là, sur les 2 semaines du mois de juillet. On en a fait à Pâques, on en avait fait aussi à la Toussaint. Donc on essaie de faire en sorte que ça soit plutôt dynamique. On a aussi des actions en faveur avec le service jeunesse sur les maisons de quartier. Voilà, ça c'est des choses qu'on a renouvelées aussi cette année.
Et des opérations qui apparemment vous voulez les développer. Hein,
voilà, on va continuer à développer, notamment avec Loris sur notre service civique, qui va faire partie de sa mission.
Et pour terminer, les tournois, cette 3e étoile d'ailleurs va vous permettre peut-être aussi de développer ça aussi également.
Oui, alors ça fait partie du sujet qu'on a évoqué hier en comité, enfin sur une réunion d'école de rugby, c'est aussi la capacité à pouvoir le club aussi de développer un tournoi aussi propre au CSV. Il faut savoir que nous, toute l'année, on organise beaucoup de tournois, mais dans le cadre des tournois de la fédération. Donc, on accueille énormément de tournois. Par contre, on n'a pas de tournoi encore qui est propre au CSV. Donc, l'idée, ce serait aussi de développer un tournoi qui serait important sur l'école de rugby pour nous.
Une formation qui paye également au niveau du fonctionnement de ces différentes équipes. Le CSV doit continuer à attirer des joueurs de tous les âges, des clubs environnants qui veulent rejoindre l'aventure. Des stages d'été pour les jeunes ont déjà débuté sur les pelouses de l'Escale à Arnas. Et pour conclure cette édition, le harcèlement scolaire est caractérisé par l'usage répété de violences physiques, mais aussi de moqueries et autres humiliations. Au cœur des préoccupations gouvernementales, la prévention et la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, comme nous l'explique Jean-François Méraud, inspecteur de l'éducation nationale, responsable de la circonscription de Villefranche. On l'écoute tout de suite.
Alors, c'était un phénomène effectivement difficile à aborder, d'une part parce qu'il s'agit d'une situation complexe pour laquelle on est aujourd'hui outillé, mais qui renvoie à des méthodologies de résolution complexes. Et puis, c'est des situations qui sont empreintes de souffrance et qui ne facilitent pas du coup la communication entre les personnes concernées et entre les professionnels qui sont en face de ces situations-là.
Alors, on a vu hein, tout au long de l'année, effectivement, des interventions plusieurs fois, effectivement, du ministre de l'Éducation, etc., de l'État en règle générale sur cette question. Est-ce qu'on est un petit peu meilleur en France parce qu'on n'était pas très bon, il faut bien le dire
hein. Alors, certains pays, effectivement, étaient plus en avance que nous, mais je crois qu'on a largement rattrapé le retard, même si les marges de progrès restent toujours une préoccupation, une réalité et une préoccupation de tous les instants. Les questions de la lutte contre le harcèlement et plus largement la question de bien-être à l'école, de confiance en soi, sont des priorités fixées par le ministère et que toute la communauté éducative s'attache à relayer au plus près du territoire.
C'est un engagement, j'allais dire, une action complètement collective finalement.
Alors effectivement, lutter contre le harcèlement, c'est une affaire collective. Je crois qu'il faut de l'intelligence collective derrière tout ça. Il faut aussi des forces mutualisées pour pouvoir porter ces situations. Je crois qu'il n'y a pas de concurrence entre les acteurs qui peuvent intervenir dans les prises en charge, mais il y a au contraire une concertation nécessaire pour pouvoir apporter les réponses les plus cohérentes et les plus solides pour apporter une réponse durable aux victimes.
Alors, j'allais dire un triptyque, auteur, victime et harceleur, bien sûr.
Oui, effectivement, il ne faut absolument pas laisser pour compte aussi les auteurs. Être auteur de harcèlement, eh bien, c'est aussi le symptôme d'une souffrance. Donc il y a aussi cette situation qui est à prendre en compte, évidemment. Et les méthodologies de résolution que l'on maîtrise aujourd'hui prennent en compte effectivement le triptyque que vous évoquez.
Alors, tout ceci fait appel en quelque sorte à un rapport psychologique, hein, ce soit enfant, mais les parents également. Enfin bon, c'est assez compliqué. On a besoin peut-être d'être aidé finalement par des professionnels.
Alors la question du dialogue avec les familles, effectivement, est essentielle. Il y a effectivement des numéros dédiés, d'appels, etc. Mais le premier niveau, c'est, et en tout cas la préoccupation essentielle, c'est d'avoir justement le dialogue, un dialogue effectif et de qualité avec les familles. Et à partir de ce dialogue, on peut commencer à construire.
Le corps enseignant, mais aussi tout ce qu'il y a autour, les ATSEM, etc., sont tous concernés. Ces gens-là ont besoin d'être formés. C'est des situations compliquées.
Alors c'est aussi une des complexités des situations de harcèlement. Ça renvoie finalement à la complexité de la prise en charge de chacun des enfants, mais aussi à sa richesse et à sa diversité. On parle aujourd'hui beaucoup d'équipes éducatives et d'acteurs d'une communauté éducative, et c'est bien à cet échelon-là qu'il faut agir. Et notamment en termes d'accompagnement des personnels qui relèvent de l'éducation nationale, enseignants ou pas. On a aussi des personnels médicaux et des personnels sociaux dans notre maison, et puis aussi personnel des collectivités territoriales, voire même du monde associatif avec lesquels nous travaillons. Donc la logique de partenariat en vue d'actions concertées est effectivement une piste particulièrement pertinente pour travailler ces questions-là.
Alors souvent dans les témoignages, les parents effectivement qui sont ou leurs enfants sont victimes de harcèlement, on retrouve des réponses un peu frustrantes dans le sens où on dit l'enfant, on conseille, en tout cas, l'établissement scolaire conseille à ce que l'enfant victime aille dans un autre établissement et finalement laisse le harceleur dans l'établissement, etc. Et donc là, il y a toujours une espèce de malaise là-dessus, finalement, sur la réponse de l'établissement. Et quelquefois, le parent est en attente, effectivement, d'une sanction qui est, par exemple, de l'ordre... J'entendais un témoignage récemment d'une maman qui disait « il a eu un dessin à rendre à mon fils ou des excuses à faire par écrit. » Voilà. Et qui... Voilà, les parents sont en tous les cas insatisfaits, souvent.
Je crois qu'il y a là... À ce niveau-là aussi, un dialogue essentiel avec les familles pour qu'ils comprennent la dimension éducative des réponses qui sont apportées. S'il doit y avoir sanction, eh bien, il y a sanction et les sanctions doivent être adaptées à chacun des degrés d'enseignement. Dans le premier degré, par exemple, eh bien, l'exclusion ne fait pas partie des sanctions qui sont réglementairement possibles. Mais on est sur des réponses qui sont strictement éducatives, mais qui permettent d'apporter des réponses solides. En revanche, revanche, un changement d'établissement pour l'enfant ou le jeune qui serait victime, eh bien, est un premier niveau de la fusée, on va dire, qui constitue la réponse. Mais il faut aussi envisager la situation de la victime, du jeune victime, pour l'accompagner au mieux, pour qu'il ait les moyens de construire cette confiance en soi, qui est un des facteurs de son statut de victime.
C'était Jean-François Miro, inspecteur de l'éducation nationale, responsable du district de Villefranche, dans le cadre du thème sur le harcèlement scolaire. Fin de notre édition. N'oubliez pas toutes les informations locales et régionales en continu sur Calade, notre page Facebook. Très bonne continuation sur Calade.